Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Louise au micro, une maman norvégienne qui partage sa vie avec Tristan Champion, blogueur plus connu sous le nom de Barba Papa. Elle nous raconte leur rencontre en Erasmus, et puis l'extension de leur famille en France, et puis en Norvège, et puis en Suisse. Mais on revient surtout sur l'expérience de son mari, qui a passé 5 mois en congé parental, et en quoi la durée de ce dernier peut alléger la charge mentale dans le couple. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Louise.
Bonjour.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast pendant les vacances.
Avec plaisir.
Alors, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
D'accord, donc moi je suis Louise, je suis norvégienne, actuellement on habite en Suisse avec ma famille, mais on a commencé avec mon mari, on a commencé notre vie ensemble en Autriche, puis on est allé en France, en Norvège, oui. Et aujourd'hui on se retrouve en Suisse. Et
d'accord, moi, vous avez fait un peu le tour de l'Europe.
Oui, on peut dire ça, oui, c'est vrai.
Et alors, à quelle occasion vous êtes rencontrés en Autriche ?
On était tous les deux en Erasmus quand on faisait nos études, donc moi en allemand et lui en économie, mais on était dans le même immeuble d'étudiants, donc on s'est connus là-bas.
D'accord. Est-ce que tu peux juste nous rappeler comment s'est passée votre rencontre ? Comment tu as succombé au charme cocorico du petit français, tout ça ?
Oui, ouais, déjà d'être français, je ne sais pas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup de Norvégiens et pour Norvégiennes comme moi, ça c'était le début. L'accent français en allemand est très attirant, on va dire. Et après, oui, on était tous les deux étudiants, on apprenait l'allemand et c'est vrai que il était très charmant et il a fait des tours de magie qui m'a beaucoup charmé aussi. Et il a joué la guitare et au fur et à mesure, on a commencé à sortir ensemble.
C'est mignon. Mais alors, vous communiquez en quelle langue surtout ?
Au début, justement, c'était en allemand. Quand on habitait en Norvège, on a commencé à parler en français, en fait. Donc, depuis, on va dire, 5 ans, on parle en français ensemble.
D'accord. Ouais. Donc, attends, vous vous êtes rencontrés en Autriche. Et à quel moment il te dit, la Norvège, il fait un peu froid. Viens, on va en France.
D'abord, on a continué chacun dans notre pays nos études. Du coup, je suis allée le rejoindre en France. Je faisais toujours les études et lui aussi. C'était très sympa. Du coup, il m'a rejoint en Norvège pour finir ses études là-bas. Et c'est après ça que c'était un peu plus difficile parce que quand il a fini ses études, il ne trouvait pas de travail en Norvège, donc il était obligé de retourner en France. Et moi, je n'avais pas terminé mes études. Du coup, je pense qu'on est resté 1 an et demi à part, mais toujours en longue distance. On se voyait souvent. Et après avoir terminé mes études, j'ai dit je vais venir à Paris. Paris, c'est la ville de rêve pour beaucoup de monde, beaucoup de gens pour habiter. Donc,
c'est clair. Et toi, tu parlais français du coup quand t'es arrivée sur place en France, pardon ?
Oui, j'ai étudié le français au lycée, mais comme tout le monde, je parle pas. Et du coup, j'ai fait des cours assez intensifs en France pendant 3 mois. Et après ça, le fait de vivre dans un pays où tout le monde le parle autour de toi, ça aide pour apprendre une langue. Et du coup, ça a été assez facile.
Et surtout quand ton plus one parle la langue, je pense que c'est un sacré point de motivation.
Oh, bien sûr. Bien sûr. Et c'est une langue tellement belle que tout le monde veut le parler, en fait.
C'est loin du norvégien ou pas ?
Oui.
Le norvégien, ça s'assimile plus au germain.
Ouais,
oui, c'est ça.
Oui. Donc, pour moi, c'était plus facile d'apprendre l'allemand. Et pour Tristan, ça a aidé Tristan, mon mari, du coup, d'apprendre le norvégien parce qu'il connaissait déjà l'allemand.
Ah, pas bête. Bon, écoute, et alors, donc, vous vous établissez enfin en France.
Oui.
Et à quel moment vous vous décidez à étendre la famille?
On aimait bien notre vie de jeune couple sans enfants. Donc, je pense qu'on a passé 4 ans à Paris. On était déjà okay. mariés. On a fait 4 ans à Paris.
C'était le temps pour toi de t'habituer aux coutumes françaises?
Oui, carrément.
Aux gens qui se plaignent, aux grèves, oui. au métro, qui n'avancent
justement,
pas.
Justement, c'était ça. C'était exactement ça.
Ça change du coup Paris par rapport à la Norvège? Parce que tu viens d'où de Norvège? Tu viens de la capitale ou...
ouais. Oui, d'Oslo. Oui, c'est plus grand, on est plus anonyme, mais ça m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup plus de choix, des choses à faire, de gens différentes. Je dirais que Paris, c'est beaucoup plus une métropole qu'Oslo, par exemple.
Et tu as quelques petites anecdotes, j'arrive jamais à dire ce mot, anecdotes, je ne sais pas où est le C.
Anecdote,
je ne sais pas. Bref, ce n'est pas grave. Sur la culture française, quand tu es arrivée en France?
Oui, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord, avec Tristan, on s'est mariés. Et puis, après le mariage, il faut faire tous les papiers, en fait, la sécurité sociale et tout ça. Et moi, j'ai gardé mon nom famille. Je n'ai pas pris son nom
fille.
Famille.
Oui,
j'ai gardé mon nom Iline. Et lui, c'était champion. Mais, par exemple, avec la sécurité sociale, ce n'était pas possible. Ils ont automatiquement ajouté champion. Du coup, pour moi, au début, parce que pour moi, c'était important aussi
Bien
de
sûr.
Garder mon nom. Et du coup, ça, c'était, oui, un petit, c'était différent parce qu'en Norvège, au moins, ils demandent quel est votre nom en famille. Et c'est pas automatiquement parce qu'on est marié avec quelqu'un qu'on...
Oui, c'est clair. C'est bien, tu avais déjà un pied dans le patriarcat français.
Oui. Et puis, moi, je suis professeur d'allemand. Et j'ai commencé à enseigner dans le 18e à Paris, dans un lycée. Et en Norvège, en tout, on est très dans le dialogue avec les élèves. Il n'y a pas madame, monsieur, ils m'appellent par mon prénom, mes élèves en Norvège. Et du coup, déjà, d'avoir des élèves qui m'appelaient, du coup, madame champion, c'était très bizarre pour moi.
En plus, c'est pas ton nom de famille.
C'était pas mon nom de famille. Mais après, le première année, je me suis fait manipuler par les élèves tout le temps parce que moi, je voulais être gentille et dialoguer. Mais pourquoi tu as fait ça? Comment on peut faire mieux? Et ils étaient là, ils rigolaient de moi et j'étais pas assez autoritaire justement parce qu'en France, mon expérience, en tout cas dans les lycées, c'était qu'il faut être autoritaire. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'au début, j'avais un peu du mal, mais après 5 ans, on s'adapte aussi. Hein.
Oui. Oh, ma pauvre. Bon, bah écoute. Du coup, tu sortais le fouet après 5 ans. Comment ça se passait?
Non, c'est pas... Non, pas du tout.
D'accord. Et à quel moment vous vous dites, tiens, et si, pourquoi pas? On rajoutait une tierce personne au lot.
Je pense que c'était les gens autour de nous aussi commençaient à avoir des enfants, donc on était prêtes. Ouais. Et pour être honnête, c'était aussi ma crise de 30 ans. Parce que j'avais 29 ans et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Comment je ne peux pas continuer comme ça, sans enfant, etc. Et du coup... mon fils, il est né la veille de mes 30 ans, un an après ma crise.
Ah, bien joué. Oui. Et alors, je sais que tu as accouché en France et que tu as, après ton deuxième, tu as accouché en Norvège, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Comment tu compares, du coup, les deux suivis de grossesse, que ce soit en France et en Norvège? Est-ce que tu vois des différences?
Ah oui, il y a beaucoup de différences entre les deux. Moi, j'ai préféré la France à la Norvège. La seule chose, c'est avec la France, je trouvais que, peut-être c'est en France ou à Paris, mais quand on est enceinte, on est un peu malade. Donc, il faut faire attention. Par exemple, je ne pouvais pas être arrêtée 20% de... soit 0 ou 100%. Donc, pour moi, j'étais arrêtée beaucoup trop tôt de mon travail, par exemple.
Oui.
Après, en France aussi, on travaille jusqu'à, c'est quoi, c'est 6 semaines avant l'accouchement. Et en Norvège, c'est jusqu'à 3 semaines avant l'accouchement.
Donc... Ah bah, c'est pas mal déjà en Norvège, parce qu'ici, tu travailles jusqu'à ce que tu perdes les os.
Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est pas ça.
Mais c'est pour ça que 6 semaines, ça me paraît énorme, parce que t'as le temps de t'ennuyer, en fait.
Oui, carrément. Et aussi, pour moi, j'étais arrêtée 8 semaines avant, et j'étais pas du tout prête, parce que je me sentais bien et tout ça, mais c'est le médecin qui a dit non, c'est stop. Donc, il fallait aussi accepter. Mais après, j'ai trouvé qu'en France, déjà, les suivis pendant la grossesse, c'était très bien, parce que c'est très rapproché. Alors qu'en Norvège, la première rendez-vous, c'est à la, quand on a 12 ou 13 semaines de grossesse déjà.
Ouais.
Donc c'est bien.
Ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas eu de fausse couche en fait, avant, quoi.
Et en France, on a 3 échographies, alors qu'en Norvège, on a un seul. Du coup, il y a beaucoup de gens qui payent pour avoir un deuxième échographie autour de 12e semaine, par exemple.
Mais attends, parce qu'en Norvège, ils la font quand, l'écho ?
À la 20e semaine.
C'est marrant, parce que je croyais que l'écho à 12-13 semaines était vraiment essentiel, parce que c'est là où ils vérifient la clarté nucale et vérifient qu'il n'y ait pas de potentiel risque de maladie génétique.
Oui.
Donc ça me paraît bizarre qu'ils skippent celle-ci.
Oui. Non, ils ne font pas ça en Norvège.
D'accord. Ils font le test sanguin ?
Pas que je me souviens, non.
Peut-être parce que tu avais moins de 35 ans, donc ils sont jugés que c'était pas nécessaire, peut-être.
Oui, justement parce que là, avec la 3e grossesse en Suisse, ils m'ont pris fait un prise de sang pour vérifier ça à cause de mon âge. Ouais.
Donc en fait, tu préférais la France parce que tu trouvais qu'il y avait un suivi
plus accompagné. En fait, en Norvège, on te laisse un peu parce que tu es pas malade, donc tu peux aller jusqu'à ce que tu accouches, en fait. Et pareil, en France, je pense que j'ai eu 8 cours de préparation à la naissance, alors qu'en Norvège, j'ai rien eu. Donc, s'il y a des cours de préparation, c'est toi qui les trouves et c'est privé. Ou tu as l'hôpital qui peut te faire 1 heure de visite un peu guidée, vite fait.
Oui, c'est comme aux US.
Oui.
Mais c'est étonnant parce que je pensais que la Norvège étant un pays un petit peu plus progressif, je ne sais plus quel est le mot, je pensais qu'ils auraient un meilleur accompagnement pour les femmes, au moins les préparations à l'accouchement, quoi.
Non, pas du tout. Et pas pendant l'accouchement et pas après non plus, je dirais.
Oui, parce qu'on va arriver du coup au comparatif des accouchements. Après, c'est dur de comparer, bien entendu, une expérience comme ça, mais est-ce que tu trouvais que le suivi était plus rassurant en France par rapport à en Norvège ?
Je dirais qu'en France, c'est beaucoup plus médicalisé et en Norvège, c'est beaucoup plus naturel.
Physiologique, oui. C'est étonnant, alors du coup, que la Norvège soit plus physio, étant donné qu'ils ne font aucune préparation pour les femmes.
Oui.
Ouais.
Non, mais pense aussi, c'est parce que en France, j'avais un peu peur de la péridurale.
Oui.
Parce qu'avec on parle de l'aiguille et ça fait peur. Et du coup, ils m'ont convaincue de le faire. Alors qu'en Norvège, on a vraiment le choix de le faire ou pas faire. Et aussi, dans beaucoup d'hôpitaux, dans les endroits un peu excentrés, il n'y a pas une anesthésiste. Et du coup, on ne peut pas mettre la péridurale. Donc, il faut accoucher.
Parce que toi, en Norvège, tu avais accouché à Oslo. Donc, c'était quand même un petit peu plus développé qu'en zone rurale, c'est ça ?
Oui, ça c'est vrai.
Eh ben, dis donc. Et alors, attends, donc du coup, on va quand même faire un comparatif congé parental, que ce soit pour toi comme pour ton conjoint.
Oui.
Comment ça s'est passé en France ? Commençons par la France. Parce que j'imagine que tu étais professeur, tu étais toujours professeur d'allemand ?
Oui, exactement. Et du coup, le fait que mon fils est née en avril et je pense que j'avais 10 semaines de congé, si je me souviens bien.
Ouais.
Et comme c'était juste avant les vacances d'été, le directeur il était très gentil, il a dit juste « revenez un jour ou deux ». Et puis, j'avais les vacances, donc je suis restée quand même presque 4 mois à la maison avec Émile, oui, le premier.
Ok.
Donc ça, c'était chouette.
Tu vois, c'est le bon plan, en fait, en France, d'accoucher en mai.
Oui.
Enfin, avril-mai, tu vois.
Oui, si on est professeur.
Oui. Mais même 4 mois, ça ne me paraît pas beaucoup, hein.
Non, pour... Oui, parce que cet été-là, on a déménagé en Norvège quand mon fils il avait 2-3 mois et du coup j'ai commencé à travailler quand il avait 4 mois en Norvège parce qu'on n'avait pas le congé norvégien, on n'avait pas les droits au congé norvégien comme on habitait en France.
Comme
tu avais
accouché en... Oui,
oui.
Ça a du sens.
Et du coup, toutes les collègues avaient la peine pour moi qui devait laisser mon enfant chez quelqu'un d'autre et pas être à la maison avec lui. Parce qu'en Norvège, on reste 1 an à la maison. Soit la mère, soit le père à s'occuper de son enfant. Donc, 4 mois, c'est pour un Norvégien,
c'est court.
Mais en France, c'est bien déjà, je pense.
Ouais. Et pour, et pour ton conjoint, Tristan, il avait combien en France? 2 jours?
Oui, je pense qu'il avait deux jours, ou peut-être il a pris une semaine parce que, oui, il avait, je me souviens pas si son entreprise avait donné une semaine ou pas.
Ça me paraît dingue. Ouais, donc, du coup, tu étais toute seule en France à gérer Émile?
Oui, oui.
Et bah, dis donc.
Et du coup, c'était un peu, je me sentais un peu seule en fait parce que, c'était bien sûr, c'est très sympa d'avoir un enfant, mais de passer toute la journée seule avec lui et Tristan avec les horaires de travailler en France qui partait tôt au travail et rentrait tard. À la fin, quand il est rentré, j'étais très contente de parler avec un adulte. Donc, c'est vrai que je me sentais assez seule en France parce que j'avais pas des copines qui accouchaient au même moment, des gens que je connaissais avec qui je pouvais partager la journée, en fait.
Oui, ou même laisser le bébé 5 secondes, le temps, je sais pas, de prendre un peu de temps pour soi.
Oui.
Mais ta famille, elle a pas pu venir te rendre visite, par exemple, pour essayer de t'aider?
Ils sont venus en été, en fait, parce que tout le monde travaille, donc ils ont dû attendre les vacances pour venir, donc ils sont venus en été, ouais.
Mais tu vois, je suis en train de penser, Tristan, quand même, en mai, il y a beaucoup de ponts. Enfin, globalement, en France, en mai, on ne travaille pas.
Oui, et ça, c'était bien. Ça, c'était bien de les longs week-ends de mai.
Donc, c'est vraiment, en fait, le bon plan d'accoucher en avril en France. Hein.
Oui, c'est ça.
Et alors attends, mais à quel moment la Norvège arrive sur la table? C'est à te dire, écoute, Émile, à 3 mois, je n'en peux plus des Français, viens, on rentre, j'en ai marre.
Non, en fait, c'est arrivé un an avant même. Donc, c'était quand on a su qu'on était enceinte, on s'est dit, c'est surtout moi qui a dit, je veux aller en Norvège. Je pense que la vie quotidienne est beaucoup plus facile. C'est surtout les horaires, le fait que en France, en tant qu'enseignante, je terminais les derniers cours à 18h, 18h30, le temps de rentrer, faire les repas et tout ça. Tristan, souvent, il rentrait à 20h, 21h. Parfois, on voit même pas l'enfant.
Oui.
Et pour moi, c'est pas comme ça que j'ai grandi. Et en Norvège, on termine le travail à 16h, on va à la crèche chercher nos enfants et on rentre, on fait le dîner, on a toute l'après-midi et le soir ensemble en fait.
Oui, ça me paraît plus équilibré comme vie.
Oui.
Et donc Tristan était OK pour tenter la Norvège?
Oui, aussi. Je pense que c'était un peu ça qu'on s'est dit aussi au début dans notre couple quand on a décidé d'être ensemble. C'est aussi que... Oui, maintenant, on va vivre un peu en France, mais après, il va falloir essayer la Norvège aussi, qu'on ne peut pas se
contenter de la France.
Voilà.
Non, tu avais bien raison de le sortir un peu de ses tranchées.
Oui.
Mais alors, donc, en fait, toi, tu savais pendant ton congé parental que tu allais rentrer en Norvège. Donc, tu avais mis une coupure à ton contrat, c'est ça?
Oui, et ce qui était un peu fou, c'est que moi, j'étais enceinte et on a tous les deux résilié nos contrats. Donc, on n'avait pas encore trouvé de travail en Norvège.
Ah ouais. Aventurier, hein.
Oui. Ouais. Et puis, Tristan a trouvé un travail avant moi. Ça, c'était.
Ah, cool.
Du coup, ouais, ça donnait l'espoir parce que c'était, pour moi, c'était ça l'enjeu, c'est est-ce que Tristan va trouver un travail ou pas? Parce qu'il parlait pas norvégien.
Il y parlait pas encore parce que je pensais que comme non. Il avait déjà fait 6 mois là-bas, et puis étant ton compagnon, je pensais qu'il avait quand même un
pas
peu
assez pour travailler. Pas assez pour travailler en fait. Non. Donc, arrivé en Norvège, il a quand même fait des cours intensifs de norvégien l'été. Ouais.
D'accord.
Moi, j'ai passé des entretiens par Skype avec Émile 3-4 semaines à côté. C'était très stressant, mais moi aussi.
Comment se focaliser sur l'entretien,
oui.
quoi.
Oui. Et du coup, mais à la fin, j'ai réussi à avoir un poste aussi, donc. Ça,
toujours de
bien.
Langue, de professeur.
Oui.
D'accord. Langue toujours et... d'allemand.
Oui.
Ou de
toujours
français.
Allemand. Non,
c'est
allemand.
C'est marrant
allemand.
Ça. Ok.
Ouais.
Et du coup, les élèves sont beaucoup plus sympas en Norvège par rapport à en France. Ils sont moins dissipés.
Non, je dirais qu'en France, ils sont quand même. En tout cas, dans mon lycée, ils étaient très. Déjà, ils sont très respectueux vis-à-vis les professeurs et. Ils étaient pas là pour rigoler, ils étaient là pour apprendre. Alors qu'en Norvège, bah là, je travaille aussi dans un collège, donc c'est peut-être aussi.
Ah, c'est peut-être l'âge. Oui,
oui l'âge aussi. Mais au début, j'avais un peu du mal à m'adapter à la, parce que j'avais jamais travaillé en tant que professeur en Norvège avant. Du coup, j'avais un peu du mal à m'adapter en Norvège. Et le fait qu'ils disaient pas Madame Champion, ça m'a fait bizarre au début. Mais bon. Maintenant, je me suis fait.
Donc, attends, résumer, donc quand Émile avait 4 mois, donc on arrive en août-septembre, partez en Norvège à Oslo, c'est ça?
Oui.
Alors, tu arrives à trouver une crèche ou une nanny pour garder Émile pendant que tu dois aller travailler? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être mis en place si les gens prennent autant de temps de congé.
Non, ça c'était difficile en fait parce que les crèches prennent, il y a certaines crèches qui prennent des enfants à partir de 10 mois, mais comme à Oslo il n'y a pas assez de place dans les crèches, c'est pas possible d'avoir avant 1 an. Parce qu'à partir de 1 an, on est promis un place dans un crèche. Et D'accord. du coup, notre seule solution, c'était de trouver une nounou.
Okay.
Mais ça, c'était difficile parce que il y en a pas beaucoup. Parce que tout le monde a une place à la crèche.
Oui.
Donc, on a trouvé, mais c'était vraiment à la fin, juste avant de commencer à travailler. Ouais.
Mm-hmm. Et donc, oui, j'aimerais bien qu'on se centre du coup sur le congé parental en Norvège, parce que c'est quand même le vif du sujet.
Oui.
C'est qu'en Norvège, et tu as le droit de me dire si j'ai faux ou pas, vous avez 3 mois minimum chacun, donc 3 mois pour la femme, 3 mois pour le partenaire. Et ensuite, vous avez le reste de ces 6 mois à vous partager entre les deux, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et donc, comment vous êtes décidé? Parce que, donc, de ce que Tristan explique, c'est que lui, il n'était pas du tout chaud patate pour prendre plus que ces 3 mois qui lui étaient alloués et que tu as un peu pushé pour lui dire « Écoute, Coco, c'est ton enfant, tu le gères aussi.
» C'est exactement
tu vas prendre
ça.
Tes responsabilités et tu vas nous prendre quelques mois de plus. Donc, il a pris 6 mois de congé parental, c'est ça?
Ouais, on a chacun pris 6 mois à peu près, oui, c'est ça.
Donc, comment il s'est passé le split? Alors, ça a été 3 mois, toi, quand ton deuxième enfant est né. Ensuite, lui a pris 3 mois ou est-ce que tu as pris 6 mois et après, lui a pris 6 mois?
Oui, d'abord, moi 6 mois et ensuite, lui 6 mois.
D'accord.
Ouais.
Bah ça va, il a quand même. Je veux dire, quand un enfant est déjà, il a 6 mois, il est déjà bien rodé, il peut s'asseoir, il est quand même un peu moins dépendant de toi que quand il est un nourrisson.
Oui, c'est souvent pour ça aussi, parce qu'on peut changer avant. Je pense que la loi dit juste que la mère doit prendre les 10 premières semaines ou quelque chose comme ça, mais sinon, on peut changer avant et faire comme on veut, en fait, avec les semaines. Mais c'est souvent ce qu'on fait, c'est que la mère prenne le début et le père ou l'autre conjoint prenne la fin. Ouais.
D'accord. Et alors, comment ça s'est passé pour vous alors?
On a beaucoup discuté, mais en fait, moi, une des raisons pourquoi je voulais qu'il prenne la moitié, c'est aussi parce que j'avais peur de me sentir aussi seule que je me suis sentie en France. Et là, c'était encore pendant plus longtemps, c'était 6 mois et pas 4. Ouais. Et je voulais que je voyais pas comment je pouvais faire 6 mois seule comme ça, en fait. Donc ça, c'était une des raisons pour moi. Et aussi, je pense que c'est parce que c'est dans ma culture, c'est comme ça qu'on fait en Norvège, entre guillemets. Les gens autour de moi ont fait ça. Mon père, il était à la maison avec ma petite sœur qui est née en 91. Ouais. Donc, c'est ça que je connais aussi, c'est que chacun prend sa...
sa part du gâteau.
Oui, voilà. Et du coup, Tristan, il a essayé de parler de carrière et tout ça.
Je lui ai dit non.
mais je lui ai dit qu'en Norvège, ça fonctionne pas comme ça parce qu'on peut pas te pénaliser dans ton carrière parce que tu prends un congé parental et paternité. Et du coup, justement, il a eu exactement cette expérience-là que on l'a pas pénalisé, même s'il a pris le congé, il a même été promoté juste avant de prendre le congé. Donc ça change pas beaucoup de choses. Ouais.
Mais rien que ça, c'est déjà un énorme aspect culturel qui diffère avec la France, quoi.
Ouais.
Mais alors, est-ce que tu penses que par rapport à ce split de responsabilité dès le début, dès la naissance du petit, est-ce que tu trouves que vous avez trouvé un moyen d'équilibrer la charge mentale dans votre famille?
Oui, j'hésite un peu, mais... Oui.
Non, mais j'imagine qu'il n'y a jamais de perfection, mais que... Enfin, j'imagine que... Par exemple, vu qu'il doit se débrouiller quand même 6 mois tout seul, il faut bien mettre les mains dans le cambouis et pas envoyer des messages toute la journée à sa femme. Où sont les onesies? Où sont les chaussettes? Est-ce que tu as acheté des couches? J'imagine qu'il doit quand même, au minimum, se débrouiller tout seul.
Voilà. Non, mais c'était ça qui était chouette aussi, c'est que pendant ce temps-là, parce que justement, moi, j'étais les 6 mois avant et après... Il a fait ces 6 mois et il y a eu un petit moment où moi je mettais les post-it, n'oublie pas ça, et fais ça et tout ça. Mais il y a aussi un moment où tout se bascule et c'est lui qui fait tout. Ah oui, mais c'est lui qui sait si on a assez de couches ou pas. C'est lui qui sait où sont les affaires. C'est lui qui a fait le ménage quand je rentre et qui a fait les courses et c'était vraiment agréable.
Mais alors, attends, je te pose une question directe qui vient dans la tête de tout le monde.
Oui.
C'est, est-ce que les hommes norvégiens, est-ce qu'il y arrive parfois, il y a des cas où vraiment, ils s'en sortent pas, quoi? Parce que je sais qu'en France, par exemple, il y a des gens... Donc là, ils ont étendu le congé parental, je crois, à 3-4 semaines pour les hommes. Et beaucoup de gens disent « Non, mais ça va être des vacances pour eux, ils vont rien faire. » Est-ce que, par exemple, tu vois ça, toi, d'un point de vue norvégien, à te dire, est-ce que les hommes pensent qu'ils ont 6 mois de vacances?
Oui, tout le monde pense que ça va être 6 mois de vacances. Tristan aussi, il pensait ça. Mais quand on se met, il a compris que déjà d'avoir un enfant de 6 mois, c'est pas des vacances. Parce que non, je pense que différemment à, par rapport à moi, moi j'avais la première période où le bébé est tout petit, il dort beaucoup, il est allongé, il bouge pas, alors que Tristan, il était obligé de courir partout et faire attention qu'il se faisait pas mal. Oui, qu'il avait pas des choses dans la bouche et tout. Donc, c'était assez sportif que juste ça. Pour lui, c'est il a vu tout de suite que c'était pas les vacances. Mais après, quand on a des longs congés comme ça, et moi et lui, on a bien profité à, en fait, en Norvège, on a quelque chose qui s'appelle les groupes de, comment dire, des, on crée des groupes
de soutien.
Avec, avec d'autres parents qui ont des enfants de même âge et qui font beaucoup d'activités ensemble. Et ça peut être juste déjeuner ensemble et, ou se balader ensemble avec un café dans les mains. Ou Tristan, il est allé souvent dans le forêt avec un groupe qui faisait des randonnées dans les forêts.
Sympa, ouais.
Et du coup, c'est, on peut appeler ça aussi des vacances entre guillemets parce qu'on fait d'autres choses que le travail et c'est ça qui a fait que Tristan, il adore aussi le congé paternité. Il veut pas, il voulait pas retourner travailler.
C'est super top de mettre ces groupes en place parce que ça permet, comme on le sait, hein, quand on est en congé parental, tu te sens vachement isolé du reste du monde.
Ouais.
Et puis ton enfant ne va pas te répondre, donc en général tu fais quand même des sacrés monologues toute la journée. donc c'est vraiment cool qu'ils, voilà, qu'ils mettent en place ce type de groupe pour éviter de te sentir tout seul chez toi, comme un idiot, quoi.
Oui, et ça c'était... Je ne connaissais pas avant, parce que justement mon premier fils il est né en France.
Oui.
Mais arrivé en Norvège et avoir découvert ça et toutes les autres activités... je faisais aussi du yoga avec l'enfant. Il y a du baby swimming. Il y a beaucoup de choses très sympas. On rencontre aussi des autres parents avec leurs enfants et c'est vraiment chouette. Ouais.
Ouais.
Donc, on n'est pas du tout seul finalement. Ouais.
Ouais. Je pense que chaque pays devrait au moins proposer ce type d'arrangement pour, pour les nouveaux parents. Et surtout quand tu me dis qu'après, quand tu retournes au travail, tu as quand même... un rythme professionnel beaucoup plus équilibré qu'en France où tu peux finir... après, je ne sais pas si c'est que pour les professeurs, mais de finir au moins à 16 heures pour aller récupérer ton enfant et passer à minimum 2-3 heures avec lui le soir, ça me paraît pas mal comme compromis.
Oui. Non, pour moi, c'est très important. Tristan, il est à la maison souvent à 17h30. Déjà, ça, c'est tard en Norvège. Donc, de manger à 17h30, 18h, c'est très tard pour les Norvégiens. Mais pour nous, c'était un compromis entre la France et la Norvège.
Oui.
Donc, ça a bien fonctionné pour nous.
Mais alors, donc, du coup, ça me fait une belle transition. Mais est-ce que toi, tu as vu son comportement changer entre Émile et votre deuxième enfant? Tu vois, sa proactivité par rapport à gérer son premier enfant et sa proactivité par rapport à gérer le deuxième maintenant qu'il avait passé 6 mois en tête-à-tête avec lui.
Oui, dans une certaine façon, Tristan, il a toujours été vraiment là avec les enfants. On est tous les deux là pour les éduquer, jouer avec. Avec Émile, c'était aussi très important pour transmettre le français comme on habitait en Norvège. Il lisait tous les soirs des livres avec lui en français, expliquait des mots et il a vraiment apporté la langue française à Émile. Mais c'est vrai que la différence, c'est peut-être que déjà, il s'est rendu compte beaucoup plus de tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et ça devenait beaucoup plus automatique. Il prenait l'initiative à faire des choses.
Oui.
Mais ce qui est dommage pour Tristan, c'est qu'il s'est marié avec une maniaque. Donc, moi, je vais jamais être... J'ai des tendances à nettoyer quand c'est pas sale aussi. Donc, mais maintenant, lui aussi, il va faire ça. Ouais.
Et donc, est-ce que tu as des exemples, par exemple, maintenant, à la manière dont vous répartissez les tâches?
Ben, souvent, parce que maintenant c'est différent, parce que moi je suis à la maison, maintenant qu'on est en Suisse, je ne travaille pas, donc forcément c'est moi qui fais plus de choses de tâches ménagères, on va dire ça, à la maison. Mm. Mais quand lui, il termine le travail, c'est lui qui prend les enfants. Parce que là, je me suis occupée des enfants toute la journée. Donc, c'est lui qui prend les enfants. Et moi, je fais, par exemple, le dîner. Donc, on a chacun... Là, par exemple, c'est assez fixé. Mais sinon, aujourd'hui, c'est surtout moi qui fais les choses dans la maison.
Oui, parce que... Donc, du coup, combien de temps après, vous avez décidé de partir en Suisse et pourquoi?
En fait, c'est après 5 ans en Norvège. Donc, on a fait 5 ans en France, 5 ans en Norvège.
5 et... ans en Suisse.
On va voir. Il y a eu une restructuration dans le boîte de Tristan, là où il travaille. Et avec ça, il avait une opportunité d'aller en tant qu'expatrié en Suisse.
D'accord.
Et on s'est dit que c'était une super occasion pour découvrir un nouveau pays. Mmh. Et encore mieux parce que c'est la partie française.
Ça allait être ma question parce que il y a quand même plusieurs parties. Je crois que c'est coupé en quatre, la Suisse, non?
Oui,
en termes linguistiques.
C'est surtout allemand, italien et français. Nous, on est dans la région francophone. Mmh. Et du coup, pour les enfants, pour nous, c'est très, très important qu'ils parlent les deux langues, norvégien et français, couramment. Oui. Et du coup, c'était une super occasion d'y aller. Et comme Lausanne, c'est juste 3h30, 4h avec le train pour aller à Paris, on était tout de suite beaucoup plus proche de la famille française que quand on était en Norvège.
Et donc, toi, tu as pu retrouver un travail en tant que prof d'allemand toujours?
Non, justement, le problème, quand on est arrivé en Suisse, c'est déjà les enfants ont mis un peu de temps à s'adapter. Donc, j'étais vraiment là pour eux, pour les accompagner. C'était difficile, surtout pour...
Ils avaient quel âge, du coup?
5 ans et 2 ans, quand on a quitté la Norvège. Et surtout pour Émile, qui avait 5 ans, il était très triste de quitter la Norvège et les gens qu'il connaît. Et en plus... en Norvège, on est on va dire, jardin d'enfance jusqu'à 6 ans. On commence l'école à 6 ans. Donc, il était toujours dans un jardin d'enfants comme une crèche à peu près. Et là, en Suisse, on commence l'école à 4 ans. Donc, il a tout de suite dû s'adapter à le système scolaire et être assis derrière
un bureau.
Un bureau toute la journée, tout ça, c'était assez difficile pour lui au début. Ouais. Et même le français, même s'il parlait bien français, c'était pas sa première langue. Et du coup, il a eu beaucoup de mal à s'adapter au début. Donc, j'étais là pour le soutenir. C'était prévu aussi que je restais un peu à la maison pour le soutenir. Et puis, en mars, il y a eu le corona.
Oui, donc...
Tout était fermé, l'école à la maison et tout. Donc... J'avais pas une opportunité de trouver un travail et puis je suis tombée enceinte de mon troisième enfant.
Oh.
Donc, pas de travail.
Et attends, donc comment ça se passe rapidement, un suivi de grossesse en Suisse par rapport à la Norvège et la France du coup
Bah, c'est encore mieux, je dirais.
Ah ouais?
On est marrant, encore ça. Mieux... Encore mieux suivi en Suisse. Et après l'accouchement, j'étais dans un hôtel.
Ah
et
oui?
C'était un hôtel de patients, mais on était comme si on était dans un hôtel. Et j'avais la vue sur le lac Léman avec le coucher de soleil. C'était magnifique.
Bon, bah,
en plus, les gens étaient les aides-soignantes et tous les personnels étaient vraiment chouettes. Et après, c'est la suivi après qui est formidable parce qu'il vient à la maison avec un troisième enfant. Il peut venir 10 fois à la maison une sage-femme pour s'occuper de toi, pour ton bébé. On a posé toutes les questions possibles et tout. Et quand la suivi des 10 fois est finie, on a l'infirmière de petite enfante qui vient à la maison, qui continue le contact avec toi. Donc c'est
trop
vraiment,
bien.
C'est vraiment chouette, oui.
Moi, ça, je ne savais pas.
Ouais.
C'est super bien.
Ouais. C'est super, vraiment. Donc, c'est le meilleur pays pour accoucher.
Oui, mais par contre, c'est le pays qui... Pareil, il n'y a pas de congé pour les partenaires, c'est ça?
Oui, et ça...
Ça,
ouais.
Par contre...
Et là, ils sont... Ouais. Je pense que là, ils sont passés de un jour à deux semaines pour le partenaire.
Ouais.
Et du coup, heureusement, Tristan, il travaille pour une entreprise qui lui donne 4 semaines.
Okay.
Donc lui, ouais. Il a pu prendre... Oui, il prend 4 semaines de congé paternité.
Parce que ça a dû lui changer, le pauvre, de passer de 2 semaines à 6 mois pour retourner à 4 semaines.
Oui, 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 oui. Non, c'est pas pareil. Hein. C'est pas,
oh,
pas du tout pareil.
Tu m'étonnes.
Mais il a quand même envie de, même si moi je suis à la maison, que c'est lui qui est en congé, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui prend le relais sur notre petite bébé. Donc c'est très bien aussi. Ouais. L'expérience de deuxième a donné. Peut-être la confiance aussi de vouloir faire.
Oui, parce que quand même, je trouve qu'en tant que femme, après c'est mon avis personnel, mais parfois tu n'oses pas trop laisser du mou à ton mari parce que tu penses qu'il va moins bien faire ou qu'il ne va pas être capable d'eux.
Ouais.
Et là, tu te dis, bah, s'il a 6 mois tout seul, nécessairement, il va être capable d'eux.
Oui, oui.
Parce que la survie de ton enfant en dépend.
Oui, oui. C'est ça. Et ça, c'était beaucoup mon problème aussi, c'est de le laisser faire aussi. Parce que il va, bien sûr, comme moi aussi, on va faire des choses qui marchent pas. Ah oui, on essaye de coucher l'enfant dans une poussette et faire un randonnée. Bah, elle va hurler pendant tout le randonnée. Mais du coup, on a compris qu'il ne faut pas faire ça. Il faut peut-être rester à la maison et le coucher dans son lit. Mais moi aussi, j'ai fait ces fautes-là. Et du coup, pour moi, ce que j'ai appris pendant le congé de mon mari, c'est de le laisser faire aussi et laisser apprendre. Et à la fin, c'est lui qui sait mieux ses routines. Et c'est à moi de demander, est-ce que maintenant, elle veut le purée ou est-ce qu'elle veut du lait? Et c'est ça, oui. C'est ça qui change un
peu. C'est, ouais, et je pense que c'est un bon message quand même à faire passer, c'est que oui, je trouve qu'on a facilement tendance à penser qu'on détient la vérité absolue et qu'on ne leur laisse pas prendre leur marque. Et nécessairement, quand ils vont être seuls, par exemple, moi, je sais que je dois garder les deux toute la journée. Et bien entendu, maintenant, j'ai des automatismes que lui n'a pas parce que le pauvre, il doit travailler.
Oui.
Donc... Et il me le dit parfois, parce que bien entendu, je me moque de lui, genre « Ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Il me dit « Mais je suis pas parfait ». Et ça, c'est important quand même de le rappeler, c'est que, ouais, il faut leur laisser des occasions de se former, entre guillemets, quoi. Donc,
ouais. Oui, carrément, c'est ça.
Et c'est pas évident pour nous de laisser du mou, mais inversement, je pense que c'est nécessaire de le faire, quoi.
Ouais.
Parce que sinon, ils vont pas oser. Moi, il me le dit parfois, il me dit « Je sais que... si je fais quelque chose de mal, Cindy va me tomber dessus, quoi, entre guillemets.
Oui.
Et je trouve ça triste, en fait, quand il pense ça.
Oui.
Que forcément, je vais nécessairement lui tomber dessus, alors qu'il faudrait admettre que c'est bien de déjà vouloir faire.
Oui, oui,
tu
oui.
Tu vois,
oui.
Je sais qu'il y a des hommes, ils n'en ont rien à faire, quoi, clairement. Donc,
exactement.
Enfin, bref. Et alors, je sais qu'aujourd'hui, Tristan, il est très impliqué dans l'élongation du congé parental, notamment en France.
Oui.
Est-ce que tu penses que c'était inné pour lui de vouloir être un papa impliqué ou est-ce que tu penses que les hommes, de manière générale, peuvent évoluer à vouloir se répartir les tâches ou ce qu'on appelle maintenant le concept de charge mentale dans le couple?
Je pense que c'est plutôt une évolution parce que je pense que même Tristan... même s'il a toujours été là pour Émile, notre premier, c'est le fait qu'il a fait le congé à la maison avec Nora, notre deuxième, qui a changé sa mentalité. Et c'est là qu'il a vu aussi, justement, comment ça peut aussi aider avec l'inégalité l'homme-femme au travail. Le fait que les deux prennent autant de congés fait que quelqu'un ne va pas choisir un homme avant une femme quand...
C'est vrai.
Il ou elle va employer quelqu'un. Ça veut dire que c'est pas l'homme qui va avancer sa carrière et pas la femme, par exemple. Du coup, c'est le fait de l'avoir vu qu'il a lancé dans dans cet engagement, oui.
Oui. Alors donc du coup, est-ce que nous, en tant que femmes, on a des outils à notre disposition? Parce que j'imagine que c'est pas dans tous les pays qu'il y a des congés parentaux aussi souples, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Donc est-ce que toi, par exemple, tu aurais des exemples à donner ou des tips à donner à des femmes pour qu'elles arrivent à se décharger sur leurs hommes? Oui. Ou sur leur partenaire, parce que j'ai aussi envie d'inclure d'autres femmes.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est comme on avait dit un peu avant, là, qu'il faut les laisser faire aussi. Il faut partir de la maison, en fait. Même si c'est juste pour quelques heures ou une journée, mais il faut les laisser prendre la responsabilité parce que, et il faut les responsabiliser. Parce que c'est vrai qu'un enfant, on fait à deux. Une maison, on fait à deux, et du coup, c'est pas juste qu'il y a un dans le couple qui fait, qui a le charge mentale tout seul ou toute seule. Pour moi, en tout cas, ça a été à apprendre à laisser, à lâcher. On dit la lâcher prise, je pense.
Oui, c'est ça.
Oui. Et que je travaille toujours aujourd'hui. Mais que c'est très important aussi de travailler avec soi-même que, et je sais que c'est pas moi qui sait mieux faire. Il peut faire différemment que moi, mais ça veut pas dire que c'est moi bien que moi.
Ouais, non, ça c'est très important et c'est dur, c'est vraiment dur de se le rappeler. Oui. Franchement.
Exactement. Mais... Et je pense que c'est ça que les femmes doivent laisser la place à l'homme ou à l'autre conjoint. Oui.
Ouais. Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps, on l'entend tellement le concept de charge mentale que ça englobe tout et ça englobe rien comme concept, tu vois. Et,
oui.
Parce que t'as envie de dire oui, on peut te donner des conseils, mais inversement, si t'as épousé un goujat. Et puis parfois, c'est quand même... C'est pas évident quand tu te maries avec quelqu'un et sa parentalité va changer son identité et ça va devenir quelqu'un qui n'était pas... Combien de fois on entend qu'un homme était parfaitement normal et quitte sa femme du jour au lendemain parce qu'elle est en train d'accoucher. Enfin, malheureusement, ça, on peut pas... voilà, si, c'est malheureux à dire, mais si t'as épousé un pauvre type... on pourra pas te donner de conseils.
Non, ça c'est vrai, Oui. Non, c'est un peu culturel aussi, je vois, parce que parmi mes amis en Norvège, je vois beaucoup plus de partage de charge mentale à la maison que dans d'autres
cultures.
Et où c'est l'homme qui fait les lessives et la femme qui fait les courses ou vice versa. Mais et par exemple maintenant il y a ma sœur et mon beau-frère. Oui, qui
tout le monde est beau dans le français.
Oui, c'est ça. Et ils ont eu un enfant et maintenant c'est à lui c'est lui qui est à la maison avec mon neveu et je voulais savoir s'il avait besoin de vêtements parce que là on va en Norvège, est-ce que je peux amener des vêtements de Émile pour plus tard pour cet enfant. Et d'abord, j'avais le réflexe d'appeler ma sœur. Mais je me suis dit, non, c'est pas ma sœur qui est à la maison, c'est pas elle qui le change et qui connaît sa taille et tout ça. Bien sûr, elle le connaît aussi, mais c'est lui qui est à la maison. Donc, je vais appeler mon beau-frère et je vais lui demander quelle taille il fait et qu'est-ce dont ils ont son besoin comme vêtements, etc., etc. Donc, c'est aussi un travail sur nous, notre mentalité.
Oui, le référent de la famille n'est pas la femme en termes de logistique et d'intendance.
Oui.
Et c'est pour ça que, par exemple... Moi, je sais que le pédiatre, ils avaient mon numéro et ils demandent qu'un seul numéro.
Ah,
et
oui,
je te jure que j'ai forcé, je fais non. Je vous explique, vous allez aussi donner l'accès à mon mari parce qu'il n'y a pas de raison que je sois la seule que vous appeliez tout le temps, quoi. Enfin, non.
Donc, ça, là, on avait la chance en Norvège parce que comme j'étais professeure et j'étais en cours pour enseigner, bah, ils ne pouvaient pas m'appeler. Donc, ils ont toujours appelé Tristan d'abord, parce que Tristan, il était au bureau, donc c'était beaucoup plus facile de le rejoindre. Du coup, ils l'ont appelé Tristan et pas moi, quand les enfants étaient malades ou quelque chose comme ça. Ouais.
Ouais. Mais ça, c'est à la société aussi de comprendre qu'on est deux à faire des enfants. Voilà, il faut prendre les deux numéros.
Exactement.
Donc, mais bon. Ok, donc le conseil premier que tu donnerais, c'est vraiment lâcher du mou et de comprendre aussi qu'ils feront les choses différemment de nous. Ce ne sera pas nécessairement moins bien, ce sera peut-être parfois mieux. Mm. Et partons déjà comme ça pour un premier conseil.
Oui, ça c'est mon conseil, oui.
Ok, bah écoute, ça me paraît pas mal du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour le futur?
Il faut dire que je suis un peu engagée comme Tristan aussi dans cette parcours égalité homme-femme. Donc, pour moi aussi, c'est important de prolonger le congé de deuxième parent. Je pense que ça change déjà beaucoup de choses. Mm. En France, en Suisse et dans d'autres pays où c'est pas égalité entre les deux, en fait.
Non, mais on peut quand même conclure que les pays qui ont compris qu'il fallait rendre ce congé équitable entre la femme qui a donné la vie et son ou sa partenaire nous semble nécessaire. Déjà pour, comme tu le dis en fait, pour que les deux partent d'un pied équitable dans leur carrière, mais aussi du coup pour potentiellement alléger quand même la charge mentale dans le couple.
Oui.
Ce qui paraît nécessaire parce que je sais plus dans quel podcast j'entendais ça, que on attend en fait de la femme qu'elle soit une bonne maman, qu'elle soit une bonne employée. Que les deux, en fait, ne soient pas simultanés. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, on attend que toi, que tu sois une excellente mère et qu'on s'en fout que tu sois une excellente employée. Et quand tu es au bureau, on attend que toi, que tu sois une excellente employée et on s'en fout, sans prendre en considération, en fait, que tu dois tenir ton rôle de mère.
Oui.
Et je pense que ça, c'est quand même assez important de réussir à décharger quand même les femmes.
Oui.
Où je trouve qu'on leur demande beaucoup trop.
Oui.
Aujourd'hui.
Oui, donc, il y a beaucoup plus d'attentes vis-à-vis une femme que vis-à-vis un homme.
Ouais. Donc, non, j'espère vraiment que les mentalités vont changer, que les cultures vont devenir un petit peu plus souples et vont comprendre que la famille est essentielle dans le bien-être de leur employé.
Oui,
exactement. Et donc, on espère vraiment que ça va évoluer de manière positive.
Oui. Oui, oui, je suis d'accord.
Mais en tout cas, je te remercie énormément pour ton témoignage. Je sais que tu t'inquiétais de petites fautes de français à droite à gauche, mais alors pas du tout.
tant mieux.
Mais vraiment pas du tout. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, donc du coup, les enfants, ils parlent norvégien, français, ok, mais ils parlent aussi allemand ?
Non, on les avait pas mis en allemand avant. Encore, mais ça va venir parce qu'on parle tous les deux allemand, donc c'est obligatoire.
Avant, c'est anglais. Comment vous allez vous splitter ça? Anglais? Ah ben oui, j'ai oublié l'anglais du coup.
Anglais d'abord et puis allemand, ça va venir au collège peut-être. Troisième langue, oui.
Mais vous avez des facilités quand même là en termes de langue. Trois langues à la maison, comment vous répartissez ça?
Ouais, allemand, on ne parle plus. Maintenant, allemand... c'est juste si Tristan et moi on veut dire quelque chose que les enfants ne doivent pas comprendre, on fait en allemand. Sinon, on fait juste français et norvégien. Et là, il faut dire que je suis en minorité à la maison parce que tout le monde me parle en français. Même parfois, Emile l'aîné, parce que le norvégien, il connaissait très bien avant de quitter la Norvège. Il me parle en norvégien, mais il faut vraiment le demander parce que sinon, tout est en français. Et la petite qui avait 2 ans quand on est arrivé en Suisse, elle parle que français, mais elle comprend le norvégien.
Bah, dis donc. Ouais. Mais alors, et l'anglais,
c'est à l'école.
Ah, c'est à l'école. Mais oui, vous êtes en Suisse française, je suis bête.
Oui.
Bah écoute, non, bah, nous on te souhaite quand même de visiter, de prendre un peu du goût du pays de Suisse.
Oui. Oui.
Que le Covid avance,
oui.
Mais et qu'on puisse quand même sortir un peu de chez nous.
Oui, 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 oui. Non, mais ça, déjà, c'est encore mieux là maintenant qu'il y a un an.
Oui, non, tu m'étonnes. Non, et puis ils commencent quand même à vacciner, donc c'est quand même un gros point positif. Mais bon, on est quand même, oui, t'as raison, on est quand même mieux avancé que l'année dernière. Donc. Enfin. Non, bah écoute, moi je te remercie beaucoup, Louise,
Merci.
Pour ton témoignage.
Merci à
c'était
toi.
C'était très instructif.
Ouais. Très sympa, oui, de cette conversation, oui.
Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao !